Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. La Russie vote aujourd'hui pour les élections régionales en pleine affaire Navalny. La figure de l'opposant numéro 1 au Kremlin frappé par un empoisonnement est dans tous les esprits, Claude Bruyot.
Entre grands ensembles et petites zones commerciales, parmi les habitants de Marino, au sud-est de Moscou, qui savent qu'Alexei Navalny vit dans le quartier, il y en a qui ne l'apprécient guère. Lyubov, une retraitée de 62 ans, dit qu'elle votera pour les candidats de la majorité présidentielle. Elle n'a pas de mots assez durs sur la nature du combat de Navalny contre la corruption.
Dites aux autres qu'il ne faut pas croire les médias, parce que Navalny, c'est quelqu'un qui a trahi sa patrie, qui n'est pas honnête. Vous croyez qu'il lutte contre la corruption, mais ce sont des fakes.
L'organisation anticorruption d'Alexei Navalny est interdite de citation sur tous les grands médias russes. Elle s'appuie sur les réseaux sociaux pour faire connaître sa stratégie actuelle qui vise à appeler au vote en faveur du candidat le mieux placé pour barrer la route aux représentants du parti de Vladimir Poutine. Sergueï, 36 ans, garagiste dans le quartier, apprécie l'homme et son action.
Ce qu'il fait contre la corruption, c'est bien. Mais je crois qu'il a vraiment été empoisonné. Je ne connais pas le programme de son organisation. Je sais simplement qu'il habite à Marino et qu'il lutte contre la corruption.
Sergueï ne votera pas pour autant en faveur des candidats de l'opposition. Il dit qu'il connaît trop bien les élus du quartier qui se représentent.
Dans la course au vaccin contre le nouveau coronavirus, le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford ont pu reprendre leurs tests, feu vert hier, 3 jours après avoir dû interrompre leurs essais cliniques. Les explications de Laura Calmus.
Trouver un vaccin contre le coronavirus est devenu la priorité des laboratoires de recherche à travers le monde. Et les Britanniques font la course en tête grâce au groupe pharmaceutique AstraZeneca et l'université d'Oxford, qui dans un effort commun se disent très près du but. Mercredi dernier, les essais cliniques avaient dû être suspendus après l'apparition d'effets secondaires graves et inexpliqués chez l'un des participants. Pas d'informations sur son état actuel, mais les essais ont pu reprendre dès hier et ne présentent pas de danger, a confirmé l'autorité de réglementation sanitaire des médicaments après une enquête réalisée par un comité indépendant. Une bonne nouvelle, a annoncé le ministre de la Santé britannique dans un tweet. Selon lui, cette pause est également la preuve que toutes les précautions sont prises par les chercheurs. 18 000 volontaires à travers le monde participent actuellement à cet essai clinique, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Brésil. Le Royaume-Uni a déjà commandé 100 millions de doses de ce vaccin, produit en masse, avant même d'obtenir une autorisation de mise sur le marché.
Dans le monde, la pandémie a fait plus de 916 000 morts, selon un bilan établi ce matin par l'AFP à partir des données transmises par les autorités. En France, on a franchi hier le seuil de 10 000 nouveaux cas de contamination recensés en 24 heures, selon Santé publique France. En 24 heures, 17 personnes sont mortes à l'hôpital et le nombre de patients entrant en réanimation a encore augmenté, avec 417 nouveaux malades hospitalisés en une semaine. Les Gilets jaunes ont manifesté hier un peu partout en France, à Bordeaux, Toulouse, Nancy, Quimper et Châteauroux notamment. Une faible mobilisation, seulement 8500 personnes dans les rues sur l'ensemble du territoire, 2500 à Paris selon l'évaluation du ministère de l'Intérieur, dans un contexte de crise sanitaire et de peur de la répression policière. Reportage de Julie Pietri dans le 17e arrondissement de Paris.
Cortège éclaté, petit groupe de manifestants dispersés, face à face régulier avec les forces de l'ordre. Il n'était pas rare hier de voir des Gilets jaunes se demander où ils pouvaient aller simplement défiler et crier leur slogan. Bastien, chauffeur routier dans l'Aisne, a terminé sa journée découragé.
Service hospitalier, les routiers, les ceux qui travaillent dans les magasins, toutes les personnes qui étaient présentes quand il y avait la crise du Covid, pendant le confinement. Ces gens-là, on était bien contents de les trouver quand on avait besoin. Et puis maintenant, c'est bon, on n'a plus besoin, on s'en fiche. Dès le départ, ça gasse, ça charge, on peut rien faire, on n'a plus de liberté.
Ça nous casse.
Lulu, aide-soignante en EHPAD dans les Ardennes, déplore, elle, les divisions du mouvement. Un exemple, Jean-Marie Bigard, qui s'était opposé à l'une des voix des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, a été hué, bousculé et finalement évacué hier.
J'y croyais, aujourd'hui je suis assez dépitée. Une manif à gauche, une manif à droite, et puis les gens se tirent dans les pattes. Quoi. Oui, il faut pas aller là-bas parce que ceci, il faut venir ici parce que c'est mieux. Alors que voilà, on est tous dans la même galère. Quoi. On demande juste à avoir un niveau de vie décent.
Malgré tout, elle se dit prête à revenir manifester pour tenter à nouveau de se faire entendre.
Un grand soleil et une température estivale aujourd'hui. Ce matin, en moyenne 15 à 25 degrés. Cet après-midi, 21 à 32 degrés avec 21 degrés à Saint-Malo, 27 à Paris, 28 à Nice et maximum 32 degrés à Toulouse. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue et Nasser Moussaoui à la technique. Prochain journal d'actualité sur France Culture, ce sera à 12h30, présenté par Claire Checaglini.